Laudetur Jesus Christus.
L'humilité est la porte d'entrée de toutes les vertus. Le pape François a conclu ce matin place Saint-Pierre à son cycle de catéchèses sur les vices et les vertus. Nous reviendrons humblement sur l'audience de ce matin au début de ce journal. Alors que se poursuit la guerre à Gaza, trois pays européens annoncent reconnaître l'État de Palestine, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne. Ce sera pour mardi prochain. Madrid est depuis plusieurs mois très critique envers Israël, nous expliquera notre correspondant. À la une de ce journal également, l'arrivée attendue d'Emmanuel Macron. Ces prochaines heures, en Nouvelle-Calédonie, le président français veut tenter de réinstaurer le dialogue dans l'archipel du Pacifique. Et puis nous parlerons de l'impact dévastateur des guerres sur la fertilité des sols. C'est le cas notamment en Ukraine. Une conférence vient de s'achever à Florence, faisant le bilan d'un siècle de science des sols.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonjour, dernière catéchèse du cycle dédié aux vices et aux vertus. Le pape François l'a consacré ce mercredi matin, à l'humilité, la porte d'entrée de toutes les vertus. Lors de l'audience générale place Saint-Pierre, François a présenté l'humilité comme une force invincible, source de paix dans le monde, mais aussi dans l'Église. Le compte-rendu de Delphine Allaire.
Humilité dérive de humus, signifiant la terre, la Bible nous le rappelle, poussière nous sommes, poussière nous redeviendrons, assure d'emblée François, mettant en garde contre l'antagoniste de cette vertu qu'est le plus mortel des vices, l'orgueil.
Mentre l'orgoglio e la superbia gonfiano il cuore umano, l'umiltà riporta tutto nella giusta dimensione.
Alors que l'orgueil et la fierté gonflent le cœur humain, l'humilité ramène tout à sa juste dimension. Nous sommes des créatures merveilleuses mais limitées, avec des qualités et des défauts, affirme le pape, regrettant les dangereuses illusions de toute puissance pouvant surgir du cœur de l'homme. Il appelle à se libérer de cet orgueil à l'image de Marie, jeune inconnue choisie pour être la mère de Dieu, louant sa petitesse intérieure, nourrie de douceur et pureté, préservée de la vile arrogance. Vertu granitique chez Marie, l'humilité est tout, selon François. C'est elle qui sauve du malin et du danger de devenir ses complices. Là où il n'y a pas d'humilité, il y a la guerre, la discorde, la division, constate le pape, conseillant à chacun d'emprunter cette voie, source de la paix dans le monde et dans l'Église, la seule conduisant au salut.
Delphine Allaire, le pape qui, avant cette audience, avait salué une délégation du Conseil chrétien de Hong Kong, une association œcuménique basée dans l'ancienne colonie britannique. Le souverain pontife les a remerciés pour leur travail au service de l'unité des chrétiens, évoquant aussi devant eux le martyr du sang, tous ces chrétiens qui ont donné leur vie pour témoigner de la bonne nouvelle. Des informations évidemment à retrouver en détail sur notre site vaticannews.va. À la une de l'actualité internationale, cette reconnaissance désormais officielle de l'État de Palestine ce mercredi par deux pays d'Europe, l'Irlande et la Norvège. Un troisième pays doit le faire mardi prochain, c'est l'Espagne. L'annonce a été faite officiellement ce matin par le chef du gouvernement, Pedro Sanchez. Depuis plusieurs mois déjà, et le début de la guerre dans la bande de Gaza, Madrid affiche son soutien à la Palestine et ne ménage pas ses critiques envers Israël. Luis Marsans.
Devant les députés du Parlement espagnol, Pedro Sanchez s'est voulu solennel ce matin. Mardi prochain, le 28 mai, l'Espagne adoptera en Conseil des ministres la reconnaissance de l'État palestinien, a déclaré le socialiste. Cette décision était attendue depuis plusieurs mois déjà. Madrid dénonce la politique d'Israël. Pedro Sanchez accuse son homologue israélien Benjamin Netanyahou de mettre en danger la solution à deux États avec sa politique, je cite, de douleur et de destruction dans la bande de Gaza. Cette reconnaissance était réclamée de vive voix par Sumar, la gauche radicale qui appartient à la coalition gouvernementale. C'est aussi une volonté très majoritaire de la population. 78% des Espagnols soutiennent cette décision. Madrid a toujours été plus proche de la Palestine que d'Israël. L'Espagne est d'ailleurs le dernier pays d'Europe à avoir établi des relations diplomatiques avec Israël. C'était en 1986. Il y a 10 ans déjà, le Parlement espagnol, sous l'impulsion de la droite, avait voté une résolution symbolique appelant à la reconnaissance de la Palestine. Ce matin, Israël a rappelé son ambassadrice à Madrid pour consultation. Côté palestinien, le Hamas et l'OLP ont salué la décision espagnole. Barcelone, Luis Marsens pour Radio Vatican.
Et sans surprise, les réactions du côté de l'État hébreu ne se sont pas fait attendre. Ces pays ont choisi de récompenser le Hamas et l'Iran et de reconnaître un État palestinien, a dénoncé Israël Katz, le ministre des Affaires étrangères. La Russie remet 6 enfants ukrainiens à leur famille, des garçons âgés de 6 à 17 ans, dont 2 frères, qui ont pu retrouver ce matin leurs proches. Cela s'est passé dans l'enceinte de l'ambassade du Qatar à Moscou. L'Ukraine qui réclame le retour de près de 20 000 mineurs déportés ou déplacés de force depuis l'invasion russe du mois de février 2022. Malgré cette bonne nouvelle, les combats ne cessent pas pour autant, et notamment les bombardements de drones. L'armée ukrainienne a assuré ce mercredi avoir abattu 24 appareils lancés par la Russie qui ont visé des installations énergétiques dans la région de Soumy, c'est au nord du pays. Les bombardements qui se poursuivent aussi près de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine. 8 personnes au moins ont été tuées ce matin dans un jardin d'enfants sur la localité de Tchouïf. L'offensive russe qui progresse également dans l'est de l'Ukraine. Moscou a annoncé il y a un peu moins d'une heure avoir conquis un nouveau village. La guerre, où qu'elle soit, a un impact sur les sols et les territoires. Le sol qui reste, on l'oublie, un élément essentiel pour assurer la subsistance des populations. La guerre en Ukraine a condamné des millions d'hectares de sols fertiles notamment. C'est ce que nous rappelle la biologiste française Claire Chenu. Elle est directrice de recherche à l'INRAE, l'Institut National de Recherche Agronomique. Elle participait ces jours-ci à une conférence internationale à Florence, en Italie, sur le thème « 100 ans de science des sols ».
À peu près 95% de notre alimentation vient des sols. C'est donc énorme. Nous dépendons complètement des sols pour notre alimentation. Et en temps de guerre, déjà, ce qui est terrible pour ce qui est, on va dire, de la, si on droit à l'alimentation, c'est que des territoires entiers ne peuvent plus être exploités, ne peuvent plus, donc les sols ne peuvent plus fournir les services que nous attendons d'eux en termes de production, de bois, d'éléments, de fibres, d'alimentation. Et puis, la guerre a pour effet de dégrader très, très fortement les sols, des obus, un tassement phénoménal dû à des tanks, à des engins, et tout ça dans n'importe quelle condition d'humidité. Donc, ça tasse parfois de manière presque irréversible les sols. En tout cas, c'est très grave. Également, une contamination par toutes les activités guerrières en Ukraine. C'est assez terrible parce que ce sont des sols extrêmement fertiles. C'est un des greniers à blé du monde, hein, l'Ukraine. Et les sols sont très fortement atteints dans toutes les zones de combat.
Des propos recueillis par Francesca Merlo, notre consoeur de la rédaction anglophone de Radio Vatican. Une marée humaine dans les rues de Téhéran ce mercredi pour rendre un dernier hommage à Ebrahim Raïssi, le président décédé dimanche dans un accident d'hélicoptère. L'hommage funèbre a été prononcé par le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, en présence des principaux dirigeants politiques et militaires du pays. Présent également à ses obsèques, Ismaïl Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas. Celui-ci est sous la menace d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour l'attaque terroriste du 7 octobre dernier. Une mission pour réaffirmer l'autorité de l'État et relancer surtout le dialogue. Le président Emmanuel Macron est attendu dans les heures qui viennent en Nouvelle-Calédonie. Mission délicate alors que sur l'archipel, le calme n'est pas totalement revenu. L'aéroport de Nouméa accueillera ce soir l'avion présidentiel mais n'a toujours pas rouvert aux vols réguliers. À Nouméa, Jean-François Baudin.
Le président de la République a pris tout le monde de court en annonçant ce déplacement lors du Conseil des ministres. Un déplacement pour écouter et échanger avec les Calédoniens sur la situation actuelle, mais aussi pour installer une mission qui doit permettre d'aboutir à un accord global. Plusieurs hauts fonctionnaires, dont certains ont servi sur le territoire et connaissent le dossier calédonien, sont dans l'avion avec lui. C'est un déplacement à haut risque et aux forts enjeux, car il vise, au-delà du soutien aux Calédoniens, à rétablir, si possible, un dialogue entre des partenaires politiques indépendantistes et non indépendantistes qui ne se parlent plus. Les partis indépendantistes, plus divisés que jamais, sont aussi en quelque sorte pris en otage par la violence déclenchée par la CCAT depuis 10 jours maintenant. Un mouvement issu de leur propre rang et que plus personne ne semble contrôler. Se pose aussi la question du retrait ou non du projet de loi constitutionnel sur le dégel du corps électoral. L'entourage d'Emmanuel Macron fait savoir qu'il prendra une décision à l'issue de sa visite que beaucoup considèrent comme déterminante. Sans résultat probant ou concret, personne n'est en mesure de dire quel sera l'avenir à court et à moyen terme sur l'archipel. À Nouméa, Jean-François Baudin pour Radio Vatican.
La campagne aux élections européennes bat son plein. En Allemagne, elle provoque des remous jusque dans le principal parti d'extrême droite, l'AFD. Sa direction vient d'interdire à sa tête de liste, Maximilian Kra, de tenir ses meetings. Il est connu pour ses dérapages. Il soutenait il y a quelques jours qu'un SS n'était pas automatiquement un criminel. Et puis avant de refermer ce journal, cette nomination dans l'Église de France, le pape a nommé ce mercredi un nouvel évêque à la tête du diocèse d'Agen dans le sud-ouest du pays. Il s'agit de Monseigneur Alexandre Alexandre Debussy. Il était jusqu'ici délégué épiscopal pour le diaconat permanent pour le diocèse de Pontoise en région parisienne. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Vous retrouverez à 18h Marie Duhamel pour un nouveau journal. N'oubliez pas toutes nos informations d'ici là sur vaticannews.va. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.